Gardez du Québec, les jeudis de midi à 13h.
CIBL 105, Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5, l'émission de la Maison du développement durable. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Aujourd'hui, on parle communication environnementale. On parle aussi du documentaire Malartic en deuxième partie d'émission. Donc, soyez-y, je serai en compagnie de Nicolas Paquette et Anne-Marie Voisard suite à la sortie de ce documentaire. Et pour débuter, c'est la chronique de Minute Culture Générale avec Alexandre Escure, directeur du cabinet de curiosité contemporain. Bonjour Alexandre.
Bonjour. Oh,
donc aujourd'hui, on parle
de biophilie.
Quel sujet intéressant.
Tout à fait. C'est un sujet que j'ai découvert à l'occasion d'un événement professionnel auquel j'ai assisté début avril, où était invité Hubert Mention, cofondateur de l'Université dans la nature. Et j'ai trouvé vraiment ce concept passionnant. J'ai vraiment envie même d'aller étudier dans cette université. Ils se définissent sur leur site internet comme un lieu d'inspiration et de rencontre entre scientifiques et praticiens, libres de toute attache gouvernementale, qui veut contribuer à faire évoluer la société civile vers une relation plus harmonieuse avec l'ensemble du vivant, afin que la transition écologique ne soit pas seulement un discours.
Très intéressant.
On ne peut que si
avoir envie d'y
aller après une telle définition. Lors de cette soirée, donc, j'ai été sensibilisé à nouveau à la notion de biophilie, qui quand même est quelque chose qui se développe de plus en plus dans l'univers tant personnel que professionnel. Et donc, j'avais envie de partager avec vous ce sujet. Alors, comme à chaque fois ou souvent, j'aime bien aller chercher l'étymologie des mots parce que je trouve que ça aide vraiment à mettre dans un contexte. Donc, biophilie vient du grec ancien. Il est formé à partir de deux mots grecs, bio qui signifie tout simplement la vie. Donc, ce préfixe est souvent utilisé en biologie pour désigner tout ce qui est lié à la vie ou aux organismes vivants. Et philia, mot qu'on traduit moins facilement, mais c'est tout simplement l'amour ou l'affection. Ce suffixe est également utilisé dans nombreux mots grecs pour exprimer des concepts liés à l'amour ou à l'attraction envers quelque chose. Ainsi, biophilie, littéralement, signifie « amour de la vie » ou « affinité envers la vie ». Donc, ce terme exprime l'idée que les humains ont une inclination naturelle et instinctive à aimer, apprécier et être attirés par le monde naturel et les êtres vivants qui le peuplent.
Ben, j'aime ça comme proposition,
oui, moi,
comme c'est beau.
Moi, je trouvais que c'était une belle invitation à l'amour de la vie.
Absolument.
Aujourd'hui. Alors, ce concept a été introduit par le biologiste Edward O. Wilson dans les années 1980. Il désigne l'idée innée et profonde qu'ont les êtres humains connectés à la nature et à d'autres formes de vie. En d'autres termes, c'est l'affinité, donc naturelle et instinctive, que les êtres humains ressentent envers le monde naturel. La biophilie suggère que les humains ont une tendance à chercher des liens avec la nature et à être attirés par elle. Cela peut se manifester de différentes manières, telles que l'attraction pour les paysages naturels, les plantes et les animaux, ainsi que le désir d'être en contact avec ces éléments. Ce concept a des implications importantes dans différents domaines, comme l'architecture, l'aménagement urbain, la conception de bâtiments, d'espaces publics. Tout cela peut être favorisé par ça pour intégrer la notion de la nature et favoriser le bien-être. La biophilie est également étudiée dans le domaine de la psychologie environnementale pour comprendre comment la nature peut contribuer au bien-être mental et émotionnel des individus.
On en parle de plus en plus, justement, de ces bienfaits-là. Puis, juste avec... hier, c'était le jour de la Terre, évidemment, là. Puis, les gens l'ont manifesté, leur amour de la nature.
Et on parle aussi d'un autre sujet de plus en plus, qui est la santé mentale. C'est quelque chose... On essaye que les gens en prennent conscience au-delà de la santé physique et aussi au travers du travail. Et la biophilie est quelque chose qui peut favoriser, améliorer la santé mentale. Les entreprises, quels sont leurs intérêts à aller dans cette direction ? Elles peuvent intégrer des éléments naturels dans la conception de leur bureau pour créer des environnements plus agréables et propices à la productivité. Cela peut inclure l'utilisation de matériel naturel comme le bois, des plantes intérieures, des murs végétaux ou même des vues sur la nature à travers de grandes fenêtres. Les entreprises peuvent donc aussi créer des espaces extérieurs accueillants pour les employés avec des jardins, des terrasses vertes ou des zones de repos entourées de verdure. Ces espaces favorisent le bien-être des employés et offrent des lieux de détente et de pause. Et ça me faisait penser à notre invité d'il y a 2 semaines qui a créé Espace Mental et qui valorise la pause. Et évidemment, la pause dans un espace comme ça est encore bien plus efficace.
Absolument.
La présence de la nature dans les environnements de travail contribue à réduire le stress, à augmenter la concentration et à améliorer le moral des employés. Cela peut ainsi se traduire par une diminution de l'absentéisme et une meilleure satisfaction au travail. Cela peut aussi redonner le goût de quitter le télétravail, cet enjeu qu'ont beaucoup d'entreprises après la pandémie, pour revenir au bureau afin de se retrouver dans un environnement sain et parfois plus agréable que chez eux. Des environnements de travail inspirés par la nature peuvent stimuler l'innovation et la créativité en fournissant aux employés un cadre propice à la réflexion et à la génération d'idées nouvelles.
Oui.
L'intégration de la biophilie dans les entreprises peut également s'aligner avec les objectifs de développement durable. En effet, utiliser des matériaux naturels et concevoir des espaces écologiques contribue à réduire l'empreinte environnementale des entreprises. Enfin, les entreprises qui intègrent la biophilie dans leur culture d'entreprise peuvent améliorer leur image de marque en tant qu'employeur soucieux du bien-être des employés. Cela peut aider à attirer et à retenir les talents.
Eh bien oui, puis je trouve que c'est des beaux incitatifs.
Oui, hein, je trouve quand même que j'aimerais que beaucoup d'entreprises les entendent.
J'aimerais ça.
Et que s'en suivent des mises en place de biophilie encore plus nombreuses dans les entreprises. Et dans la vie de tous les jours, en dehors du contexte professionnel, on peut trouver de nombreuses applications dans la vie quotidienne. Dans le domaine de l'architecture et du design d'intérieur résidentiel, la biophilie est utilisée pour créer des espaces de vie plus harmonieux et relaxants. Cela peut inclure l'intégration de plantes d'intérieur, encore une fois l'utilisation de matériaux naturels tels que le bois et la pierre, et maximiser autant que possible la lumière naturelle. Pour les particuliers, le jardinage, l'horticulture sont des moyens populaires d'exprimer la biophilie en créant des jardins, des potagers ou des espaces verts dans et autour de la maison. Travailler avec la terre et les plantes peut être apaisant et thérapeutique. Les municipalités intègrent elles aussi de plus en plus la biophilie dans la conception des espaces publics tels que les parcs, les places et les rues piétonnes. Ces environnements favorisent le bien-être des résidents en offrant des espaces verts accessibles à tous. Passer du temps dans la nature est largement reconnu comme bénéfique pour la santé mentale et physique. Il existe une pratique que j'ai été amené à découvrir pour cette chronique du, j'espère bien prononcé, Shinrin-yoku, qui signifie « bain de forêt », qui est originaire du Japon, qui encourage les individus à passer du temps en immersion dans la nature pour réduire le stress et améliorer le bien-être. Et c'est justement une pratique que l'Université dans la nature propose, puisqu'ils en avaient parlé lors de l'événement auquel j'ai assisté. Ils expliquaient qu'il fallait s'asseoir en tailleur 3h30 dans une forêt et apprendre à vivre avec la nature. Alors moi, j'avoue que j'ai tout de suite pensé aux bibites qui me faisaient un peu peur dans la forêt.
Oui.
Mais si on passe ce détail, il paraît qu'après, c'est très apaisant.
On dépasse ce stade d'inconfort, voilà. Peut-être, face à certains éléments de la nature auxquels
Exactement.
On est moins habitué.
Et puis, il faut aussi prendre l'idée qu'on a du mal dans nos sociétés contemporaines à prendre le temps de méditer, de ne rien faire.
Mmh.
Et donc, il disait qu'il y a une première heure où les gens sont quand même beaucoup en mode « j'ai envie de bouger ». Et ensuite, ils finissent par prendre leur calme dans la forêt. La biophilie inspire également des innovations technologiques visant à intégrer la nature dans nos environnements urbains et numériques. Par exemple, des applications et des dispositifs de réalité virtuelle sont développés pour offrir des expériences immersives dans la nature.
Je préfère tout de même aller réellement dans un bain de forêt, je pense, que la version virtuelle.
Que la version virtuelle. J'ai par exemple vécu cette semaine, enfin la semaine dernière, la version virtuelle de l'Égypte. Je suis allé voir l'exposition Khéops, qui est très impressionnante. Et là, au moins, on se retrouve dans une pyramide vieille de 4500 ans, donc dans un endroit où on ne pourrait pas aller facilement.
Oui.
Donc là, j'aime l'expérience immersive. Mm-hmm. Quitte à aller dans la nature, je préfère aller soit au parc Mont-Royal, soit au Mont-Tremblant ou ailleurs.
C'est une belle option.
Mais c'est une option, exactement. La biophilie, elle promet un mode de vie plus durable, connecté à la nature et axé sur le bien-être, en encourageant les interactions positives avec notre environnement naturel. Mais par où débuter ? Quel outil on peut mettre facilement en place? Parce que c'est souvent ce qu'on se dit quand on entend tous ces concepts et ces belles idées. On se dit, c'est super, mais moi, je n'ai pas de jardin, moi, je n'ai pas de potager. Comment je fais? Ben, il existe quelque chose de simple, acheter des plantes dépolluantes. Ça se trouve désormais assez facilement et elles permettent d'intégrer la présence de la nature dans nos maisons, nos bureaux ou d'autres environnements d'intérieur. Elles ont la capacité d'absorber les polluants présents dans l'air intérieur, c'est-à-dire qu'elles absorbent le formaldéhyde, le benzène, le xylène et d'autres composés organiques volatiles. En purifiant l'air, elle crée un environnement intérieur plus sain, ce qui est bénéfique pour notre bien-être et notre santé. Donc quand on vit en ville avec toute la pollution que cela génère, cela peut faire que du bien de rentrer dans un appartement qui est complètement sain,
oui.
Ou une maison. Les plantes dépolluantes ajoutent une dimension sensorielle à notre environnement intérieur. Leur présence visuelle, leur texture et parfois même leur parfum contribuent à stimuler nos sens, ce qui est essentiel pour favoriser notre connexion avec la nature. Ainsi, en intégrant des plantes dépolluantes dans nos espaces de vie et de travail, nous améliorons notre qualité de vie de manière holistique. Un environnement plus vert et naturel peut aussi favoriser la créativité, la productivité et notre état d'esprit général. Ces plantes contribuent à créer des espaces qui ressemblent davantage à des écosystèmes naturels, ce qui répond aux besoins innés de l'homme en matière de connexion avec le monde naturel.
Que c'est intéressant, la biophilie.
Exactement.
Et de voir qu'on peut quand même facilement intégrer ça. Je me souviens, dans un panel que j'avais écouté, il y avait une intervenante qui disait que même juste avec une image de la nature, on parlait de réalité virtuelle tout à l'heure, que juste ça, ça pouvait déjà être suffisant pour nous rappeler cette sensation, que le cerveau rappelle au corps le bienfait
tout
de se retrouver dans ces lieux-là.
J'évoquais au début l'idée de baies vitrées sur des beaux paysages. Mais pareil, si tu remplaces ce que tu vois par ta fenêtre tous les jours, qui peut être l'autoroute, par exemple, par une belle image de nature, ça sera déjà bien plus positif pour toi.
Absolument, absolument.
Donc, c'est la fin de cette chronique qui faisait écho au volume « La culture de demain » du cabinet de curiosité contemporain, des ateliers de culture générale en entreprise autour des thématiques suivantes « Environnement, écologie et nature » pour faire découvrir les concepts à l'origine de ces modes de vie et accélérer la transition écologique des entreprises. Plus d'infos sur cabinetcontemporain.com. Pour en savoir plus, je vous invite à vous intéresser au programme donc de l'Université dans la nature. Le site est unature.org. Découvrir l'ouvrage « Les plantes dépolluantes » par Ariane Boixière et Geneviève Chaudet chez Rustica Éditions. Découvrir le film « Le jardin secret » avec Maggie Smith ou Irène Jacob, d'après le roman de Frances Hodgson Burnett de 1911, un film qui explore la guérison émotionnelle à travers le jardinage et la nature. Et inspirez-vous de la nouvelle de Jean Giono, « L'homme qui plantait des arbres » de 1953, qui est devenu un film d'animation québécois réalisé par l'illustrateur Frédéric Bach pour Radio-Canada en 1987.
Oui, d'ailleurs, on célèbre ses 100 ans.
Oui,
hein, il y a
exactement.
Des célébrations en ce moment.
Et il existe un très beau parc à côté de la Tohu, dans le Nord, qui s'appelle le parc Frédéric Bach.
Oui, magnifique espace, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre Escure, donc directeur du cabinet de curiosité contemporain, pour cette chronique sur la biophilie.
Avec plaisir.
Au plaisir. Alors, on poursuit maintenant avec Stéphanie Chevalier de Quintus, avec qui on parle aujourd'hui communication environnementale, entre autres choses. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, Maude.
Comment vas-tu ce matin?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien, merci. Donc, écoute, on s'est vu il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait un événement la semaine dernière à la Maison du développement durable sur la communication environnementale. Et puis, tu vas nous faire un petit retour là-dessus, là, entre autres sujets entourant la communication aujourd'hui.
Ben oui, ben en fait, je trouvais que c'était tout à propos de pouvoir justement échanger sur le sujet parce que ben je crois que c'était partagé parmi toutes les panélistes, dont toi qui en faisais partie, ce sentiment d'avoir ouvert un narratif qui était différent autour du sujet de la communication environnementale, puis qui osait aborder d'autres thématiques dont entre autres l'importance de l'humain, mais en parlant de l'humain, puis ça fait vraiment un lien direct avec l'entrevue qui était juste avant la mienne.
Oui.
Mais à quel point l'important de revenir à soi dans un certain sens dans la définition que la transition devrait partir de soi avant d'espérer qu'elle puisse avoir un impact à l'extérieur de soi, parce qu'on a beaucoup plus de contrôle entre guillemets sur ce qu'on peut, vivre à l'intérieur de ça versus l'expression extérieure de ce qui se passe. Et puis, de parler de pleine conscience, de méditation, des sujets qui, au final, en coulisses, on était peut-être un peu pas nerveuse, mais tu sais, sensible à savoir que les gens sont prêts à entendre ces messages-là, puis la réception du public, les témoignages qu'on a reçus, autant dans les questions que par la suite, me confirmaient que c'était justement un narratif qui était prêt à être communiqué puis qui était vraiment nécessaire par rapport à tout ce qui se passe sur la planète présentement.
Oui, c'est tellement vrai. Tu l'as extrêmement bien résumé. Le retour qu'on a eu venait juste confirmer que notre propos est pertinent en ce moment et que les gens en ont besoin aussi. Ont besoin de savoir qu'on est plusieurs à avoir cette perception-là de nous-mêmes et aussi de comment on communique autour de nous.
Oui, effectivement, parce que même en termes de témoignages, ce que moi j'ai ressenti, c'est que y a des gens qui explorent, on va dire, d'autres manières de faire. De plus en plus, la firme se positionne, mais il y a un certain sentiment de solitude aussi qu'on peut ressentir, ou la peur d'être rejeté. Et donc, de finalement se retrouver dans une salle où on est tous des gens qui ont envie de faire différent, puis en même temps, je dirais, oser écouter son cœur. donc de parler d'empathie, à quel point c'est important d'être dans l'écoute, puis de se reconnecter à nos qualités humaines qui ne sont pas déconnectées de la nature. Et donc là, quand vous parliez juste avant de prendre des bains de nature, mais c'est des outils incroyables qui nous aident à faire une certaine pause pour se retrouver. Puis en tant que communicateur, on a comme différents chapeaux, différents rôles, et présentement, ben on est tous conscients qu'il y a un certain cynisme grandissant. Il y a de la peur, il y a de l'éco-anxiété, de la santé mentale, c'est des sujets qu'on parle de plus en plus, mais ça fait en sorte qu'on est face à beaucoup d'immobilisme, parce que soit les gens savent pas quoi faire, soit les gens ont l'impression que ça leur a pas d'impact, ou soit qu'il est déjà trop tard. Et comment faire en tant que communicateur pour apporter un message qui n'est pas naïf, dans un certain sens, qui prend en considération que, bon, il y a des enjeux, puis ils sont grandissants, mais qu'en même temps, on a un certain pouvoir d'action. Et là, je crois que c'est, quand je parlais du cœur, en fait, c'est d'aller retrouver en soi un peu l'espoir que c'est possible, et de sortir ces messages de cette émotion-là, et non pas de la peur. Et donc, au final, la nature, si je reviens à mon idée initiale, peut nous permettre justement, puis pas seulement en tant que communicateur, mais en tant qu'être humain tout simplement, à apaiser ce mental qui est pour la plupart, ou je dirais pratiquement tout le monde, trop agité, surstimulé, et au final, on en perd un peu la clarté de notre vision. Et puis qu'on peut vouloir aller un peu dans tous les sens, pas avoir nécessairement d'impact désiré au niveau de nos actions parce qu'ils sont pas nécessairement optimales. Donc ça nous permet justement de mettre notre système un peu plus en pause pour le régénérer. Et c'est important, je pense, d'en parler, à quel point qu'il y a tellement d'outils, en fait, puis que c'est important de prendre soin de soi pour, après ça, avoir des messages encore plus puissants, puis connecter à la sensibilité des gens qui vont le recevoir aussi, pour les aider, dans le fond, à leur proposer des solutions et non pas de leur rappeler à quel point ça va mal.
C'est ça. Puis on le recevait beaucoup aussi, ce désir et ce besoin d'être capable de communiquer différemment, parce que les gens qui sont les convaincus, mais qui veulent convaincre, ils sentent qu'ils n'ont pas toujours les bons mots, ou leur discours, là, finalement, ça ne passe plus, les gens ne sont pas à l'écoute. Donc, il y a comme un sentiment d'impasse par rapport à ça. Et puis, à travers ce que tu dis, de prendre des pauses, que ce soit en nature ou même juste sous la forme de méditation, comme tu proposais, ça permet de faire un ménage aussi dans la surinformation qu'on reçoit de toutes sortes, mais beaucoup du côté environnemental, du côté de la transition écologique, des solutions, des problèmes aussi. Fait que tout ça vient comme se mêler un peu avec beaucoup de fausses informations à travers ça. Et de prendre une pause, ça permet aussi de se dire, ben mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui a du sens pour moi, et qu'est-ce que je me sens capable de communiquer ou de faire. Oui, cette pause est nécessaire à plusieurs égards. Et toi, c'est quelque chose que tu pratiques et dans lequel tu t'investis de plus en plus, autant au niveau personnel que professionnel.
Ben oui, tout à fait, parce que bon, moi, pour mon histoire personnelle, l'entrepreneuriat m'a amené à vivre beaucoup d'émotions, puis j'ai cherché en fait des outils pour aller trouver un certain équilibre à travers ça. Et puis, ben, c'était une pratique qui était personnelle que j'ai eu envie de porter un peu plus publiquement, parce que je crois que pour avoir échangé avec d'autres entrepreneurs, et je pense pas que c'est juste les entrepreneurs qui vont vivre cette réalité, mais en tant qu'entrepreneur, ben, ce sentiment de solitude, cette surcharge mentale qui peut s'accentuer quand on devient parent, entre autres, ce que j'ai vécu aussi, puis la connexion humaine, tu sais, de déconstruire en fait des histoires ou des choses que je croyais dans ce sentiment-là face à la performance, à la perfection, etc. Puis de redevenir un peu plus humaine, ça c'est quelque chose que j'explore et que je continue à explorer et que je peux vivre aussi, j'ai la chance avec certains mandats. Parce que dans le fond, Quintus, on est une agence de communication responsable et on travaille justement avec des organisations qui proposent, je dirais, des nouveaux récits, donc qui amènent dans la société à proposer des nouvelles manières de faire et d'être qui, au final, créent une certaine nouvelle norme. Et je trouve ça vraiment inspirant de pouvoir contribuer justement à changer les narratifs, parce qu'au final, quand je parlais du cynisme tantôt, ben en fait, dans la société dans laquelle on est présentement, si on vit une transition, qu'on le veuille ou pas, on la vit cette transition-là, puis on la ressent de différentes manières, ben c'est parce qu'en fait, il y a un imaginaire collectif qui n'allait pas nécessairement dans la bonne direction, si je veux juste résumer ça très simplement. Et puis, ben il y a la nécessité finalement de partager des nouveaux narratifs, des nouveaux discours qui vont forger un narratif beaucoup plus positif où les gens sauront se projeter dans un avenir positif. Mm-hmm. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, dans le sens que, on en a parlé lors de l'événement, mais de nourrir l'espoir, à quel point c'est essentiel, c'est tellement important, parce que sinon, c'est important pour que les gens puissent justement se retrouver dans une histoire qui a une fin, une continuité positive, oui. Et où ils pourront se trouver un rôle à travers ça, puis justement de regagner espoir qu'il y a encore un scénario positif qui peut se dessiner devant nous si finalement on décide d'aller dans cette direction-là. Donc ça prend à la fois du courage, puis que tous et chacun puissent mettre nos forces au service de ce dit projet collectif ou de cette nouvelle histoire qu'on peut co-créer ensemble. Et de là, ben, le pouvoir de la communication, que ce soit une communication qu'on dit environnementale ou responsable, peut amener justement à forger ces nouveaux imaginaires-là, puis à raconter des nouveaux récits qui vont dans ce sens que l'on veut.
Mais oui, on a absolument besoin de ça, de cet espoir-là, des nouveaux narratifs pour continuer d'avancer vers quelque chose. C'est absolument compréhensible. Et là, on fait beaucoup référence à cet événement-là qui a eu lieu la semaine dernière à la Maison du développement durable. La réécoute est disponible en ligne. Là, pour celles et ceux qui écoutent, puis c'est comme, hey, on aimerait s'en savoir plus, il est possible d'aller le réécouter. Aller à partir du site web de la Maison du développement durable pour retrouver l'événement sur la communication responsable. Et parlant d'événements, tu vas présenter une nouvelle formation avec Quintus à la Maison du développement durable le 16 mai prochain.
Oui, tout à fait. Bien, c'est en primeur, si je pourrais dire, qu'on a intégré la programmation de la Maison du développement durable pour justement proposer la formation Introduction aux stratégies narratives pour un changement sociétal, où je dirais qu'on s'est vraiment amusé à la fois, comment dire, c'est un mélange de nos diverses passions, de nos divers champs d'intérêt pour amener, je dirais, c'est à la fois ouvert aux individus qu'aux organisations, parce que je considère qu'on est tous des communicateurs, c'est-à-dire que l'être humain a cette faculté de communiquer, et pour l'explorer dans un monde professionnel, c'est un art en soi, c'est complexe parce que l'être humain est complexe. Et c'est ça qu'on va voir, entre autres, dans la formation, comment justement amener à bien comprendre à qui on parle, cet être humain qui a à la fois des perceptions, des valeurs, il y a plein d'éléments qui forgent ses comportements. Et si on veut les changer, ben, il faut aller au cœur pour aller vraiment comprendre qui sont vraiment ces êtres derrière et dans quel contexte ils sont. Mm. Mais pas que, parce qu'au final, je crois que à la fois l'être humain et l'organisation, c'est pour ça que je fais le parallèle, on a tous une raison d'être. On a tous quelque chose qui nous motive à avancer puis à accomplir quelque chose de plus grand que soi. Et l'organisation, mais si elle se connecte profondément à son « why » qu'on appelle, donc à son « pourquoi », sa raison d'être, elle a déjà tout en main, entre guillemets, pour raconter cette histoire-là qui saura rejoindre les gens à qui elle s'adresse. Mmh. Et ensuite, d'aller porter les messages qu'elle le veut. Donc, à travers cette formation-là, ben c'est ça. Il y a différentes parties où, à la fois, oui, on partage de la théorie, mais qu'on la met en pratique pour qu'à la fin, ben, ils puissent, les participants, ressortir avec des outils qu'ils auront déjà un peu complétés, qui pourront les suivre et les accompagner par la suite là, après cette formation qui aura lieu, comme tu disais, là, le 16 mai prochain à la Maison du développement durable. Il reste peut-être quelques places, ou du moins une liste d'attente, parce que les places se sont quand même envolées très rapidement. Ce qui veut dire que ça ne sera pas la dernière fois qu'on offrira cette formation-là. Donc, les gens peuvent aussi nous suivre sur notre site internet quintus.ca pour savoir un peu là, qu'est-ce qu'il y en est de cette formation puis quelles seront les prochaines dates.
Mm-hmm. Donc, une première introduction aux stratégies narratives pour le changement sociétal le 16 mai prochain à la Maison du développement durable en primeur. Hein. Fait que là, on voit de par la popularité de l'événement qu'il y a un besoin, encore une fois, de ces nouveaux narratifs à travers ça. Et si on en revient, j'avais quand même une curiosité de t'entendre là-dessus, autant dans le panel que là, on est deux femmes encore en train de parler d'environnement. Les femmes ont un rôle prépondérant, je dirais, dans la communication environnementale ou dans l'environnement en général, dans le domaine environnemental. Comment tu te perçois, toi, à travers ça? Est-ce que tu sens que c'est une charge pour toi, ou tu trouves que, justement, c'est un pouvoir que tu peux employer à bon escient?
Ben j'irais plus pour la deuxième option, dans le sens que les femmes, on a plus naturellement accès à cette énergie féminine de parce qu'on est des femmes, mais pas que, parce qu'en fait, quand je parle d'énergie, cette énergie-là, ben les hommes la portent en eux aussi. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que c'est concrètement? Ben c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est la bienveillance, c'est l'empathie. Et si je fais le pont avec ce que je disais un peu plus tôt, ben on a besoin de ces qualités-là, tout autant qu'on a besoin des qualités dites masculines, mm-hmm. Donc autant l'action, la structure, l'organisation. On a besoin de avoir un certain équilibre et de valoriser autant justement ces qualités dites plus féminines. Et donc, je crois que en incarnant ces valeurs-là, ben ça nous permet justement d'amener la société à quelque chose qui est un peu plus équilibré, puis que on puisse justement être un modèle de, oui, être en action, mais d'être aussi capable de recevoir, parce que la créativité, c'est pas fluide quand on a un esprit surchargé, quand on est toujours dans l'action, puis qu'on prend pas le temps de recevoir ces idées-là. Donc, en tant que femme, je pense que ça peut être vraiment un modèle de présenter justement ces valeurs-là comme étant des forces, autant aux jeunes qu'aux hommes qu'aux autres femmes, puis de les assumer pleinement dans notre société. Mm-hmm. Et puis, je pense que tout le monde peut les porter. Donc, je pense que c'est juste une belle, un beau défi, mais motivant. C'est pas un défi comme étant quelque chose de péjoratif, au contraire.
Un beau défi à relever, donc de profiter de cette présence féminine dans le milieu environnemental et de cette sensibilité qu'on est capable de communiquer plus facilement pour amener ces récits-là. Et je posais la question comme ça parce que, bon, c'est plus un mythe, c'est un fait, là. C'est avéré qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le milieu environnemental, bien que les positions de pouvoir sont essentiellement occupées par des hommes présentement. Mais dans les autres domaines et les autres paliers, c'est beaucoup plus les femmes qui portent ce chapeau-là. J'essaie d'éviter le mot charge parce que je trouve que ça a une connotation justement plus péjorative par rapport à ça. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant quand même à observer. Et dans votre binôme, justement, à toi et Maxime, donc qui est co-directeur avec toi là, de Quintus. Tous les deux, vous abordez ces nouveaux récits-là avec beaucoup d'ouverture. Les deux, vous êtes super impliqués dans cette façon de ramener les mots différemment dans la bouche et l'esprit des gens. Et Maxime lui-même anime également des fresques, anime des ateliers par rapport à ça. Est-ce que ça a été comme évident pour vous deux d'aller ensemble dans cette direction-là ou il y en a un qui a eu à convaincre l'autre?
Non, je pense pas que, tu sais, dans le fond, à la base, tu sais, si Quintus est né, c'est que les deux, on avait vraiment cette vision-là de vouloir partager des solutions puis de faire rayonner des projets qui nous tenaient à cœur, qui partageaient nos valeurs. Donc, pour nous, ça a toujours été clair, c'est toujours ce qui nous a guidés. À travers le temps, bon, on a acquis 10 ans d'expérience très riche et ça faisait longtemps qu'on voulait pouvoir mettre en commun nos expertises, nos complémentarités. Mm-hmm. Puis c'est ça justement les formations complémentaires qu'on a pu suivre à travers le temps dans une formation. Et puis, il y a peut-être de cela 2 ans, Maxime a découvert la fresque des nouveaux récits. Et là, ça a été vraiment pour lui un moment eureka, un coup de cœur. J'ai vu les étoiles dans ses yeux, puis c'était comme assuré qu'il était pour faire la formation pour devenir animateur. Et il est devenu le premier formateur ici au Canada à offrir cette fresque-là que j'ai suivie. Mm-hmm. Moi, j'adore suivre la fresque pour voir, surtout dans la deuxième partie, l'émerveillement des gens face à la puissance des récits. Et j'en étais convaincue, mais je l'ai vécu et j'ai fait comme moi, wow, juste d'avoir eu un témoignage d'une femme cet été dans une des soirées complètement fresques de la Maison du développement durable qui arrivait avec une certaine éco-anxiété. Mmh. On avait discuté un peu avant la fresque et puis à la fin, lorsque son équipe ont lu l'histoire qu'ils ont, le récit qu'ils ont co-construit ensemble et qu'elle a dit au groupe qu'elle était impressionnée de réaliser à quel point finalement ce récit-là n'était pas utopique, c'était mm-hmm. pas de la science-fiction, c'était quelque chose qui, au final, était beaucoup plus près de la réalité qu'elle le croyait, puis ça lui a donné beaucoup d'espoir. Mm-hmm. Et c'est à partir de là, de tous ces témoignages-là, puis de constater encore plus la puissance du récit, que finalement, ben, on a vraiment décidé de s'immerger les deux, puis d'en faire un positionnement beaucoup plus clair au niveau de l'agence, et de là, une certaine transition qu'on vit, qu'on a envie de proposer des formations qui vont ce sens-là pour outiller à la fois, comme je disais, les individus que les organisations, parce qu'il y a vraiment un potentiel immense, et plus on avance dans cette direction-là, plus on le constate, et c'est vraiment motivant, en fait, parce qu'enfin, oui. On touche, bien enfin.
Je vais devoir t'arrêter, Stéphanie. Je m'excuse, je t'ai comme lancée sur une question très vaste. Tu me sembles si passionnée, puis c'est beau de vous voir aller tous les deux vraiment à suivre absolument sur votre site, donc quintus.ca, le 16 mai prochain à la MDD, donc à voir sur le site de la Maison du développement durable. Merci beaucoup, Stéphanie Chevalier, donc co-directrice générale de Quintus. Bonne journée à toi.
Merci, Maude. Bonne journée aussi.
Bonne journée, au revoir. On se retrouve tout de suite après la pause pour parler de Malartic.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éthique à loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
CBL 101.5, Montréal.
Nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5 et là, on va parler du film documentaire Malartic qui est présentement en tournée au Québec. Pour toutes les informations, allez sur le site de l'ONF pour voir toutes les dates et les salles disponibles. Nous voici maintenant en compagnie d'Anne-Marie Voisard et Nicolas Paquet pour parler du film documentaire Malartic qui débute sa tournée au Québec en ce moment. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être là pour parler de ce vaste sujet. Donc, petit résumé, je vais faire un petit peu votre CV distinctif. Donc, Nicolas Paquet, tu es cinéaste indépendant, tu es détenteur d'une maîtrise en philosophie politique qui porte sur la question de la résurgence indigène. Tu comptes déjà plusieurs réalisations à ton actif, dont ton plus récent film documentaire, Malartic. Et Anne-Marie Voisard, tu es professeure de psychologie au Cégep Saint-Laurent. Tu poursuis divers engagements de toutes sortes, mais tu es aussi l'autrice du livre « Le droit du plus fort » paru aux éditions Éco-Société en 2018. Et tu es l'une des intervenantes que l'on peut voir dans le documentaire de Nicolas, donc Malartic. Alors, maintenant que les présentations sont faites, Nicolas, est-ce que tu pourrais me dresser un historique rapide de Malartic?
Bien, pour ce qui est du film comme tel, c'est un peu une prolongation du premier long-métrage que j'ai fait qui s'appelle « La règle d'or », où je suis allé là-bas en 2010-2011 alors qu'une compagnie minière allait effacer tout un quartier, donc 200 maisons, deux écoles, etc., pour creuser la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada. L'idée, c'était vraiment de suivre à ce moment-là comment les gens, les citoyens vivaient ce grand bouleversement-là. Donc, on s'est vraiment cantonné à Malartic, dans le cœur de l'action, je dirais, mais dans le cœur des gens aussi. Et puis, donc, une dizaine d'années plus tard, j'ai décidé, je me suis dit, il y a comme une responsabilité d'aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant à Malartic, parce qu'au départ, oui, il y avait beaucoup d'impact et d'inquiétude, mais il y avait un espoir que la ville allait renaître. C'était une ville qui était, on peut dire, dévitalisée. La population avait vraiment chuté. Et là, on se disait, bon, il y a une nouvelle mine qui arrive, un gros projet, ça va amener des emplois, des services, des commerces, un peu comme dans le bon vieux temps. Mais moi, en gardant contact avec les gens, je me suis rendu compte que ce qui devait arriver, enfin, ce qu'on espérait, ne se produisait pas dans la réalité du quotidien. Alors, j'ai décidé de retourner là-bas pour voir comment ça se passait, mais aussi pour élargir le propos et essayer de comprendre pourquoi ces histoires-là arrivent comme ça et pourquoi il y a autant d'injustice et d'inégalité dans ces grands projets financiers et politique jusqu'à un certain point.
Oui, des sujets qui sont extrêmement complexes aussi. Toi, Anne-Marie, est-ce que tu avais déjà suivi le dossier Malartic depuis ses débuts?
Oui, au départ, un peu comme tout le monde dans la presse. Donc, effectivement, c'est un cas qui m'a intéressée. Mais c'est vrai que l'interpellation de Nicolas m'a amenée à m'y pencher de plus près. Moi, je sortais de l'expérience qui a mené, à l'instar des citoyennes de Malartic, j'ai moi aussi eu mes déboires avec le système judiciaire dans l'affaire Noir Canada. Et donc, c'est ça. J'étais suite à la publication du droit du plus fort. Et j'ai vu là, effectivement, un cas absolument emblématique là, de toutes ces dynamiques que je m'étais employée à analyser dans cet ouvrage-là. C'est un exemple assez patent. Hélas, c'est pas une exception. Il y en a eu avant. Il continue à avoir des cas qui défraient l'actualité.
C'est ça qui est incroyable.
Mais là, il y avait quand même un cas, effectivement, voilà, tristement emblématique. Et je pense que le travail de Nicolas à cet effet-là est vraiment salutaire parce qu'il y a une illustration des rapports de force et de l'utilisation en fait, moi, je le résume souvent en disant que c'est une communauté des citoyens qui ont été doublement abandonnés et par la force publique et par le pouvoir judiciaire.
Absolument. Et là, justement, tu le mentionnes bien, il y en a eu, il y en a encore et ça va continuer. C'est un projet de mine qui date de 2006, donc les débuts, l'amorce de ce projet de mine d'or à ciel ouvert. Et le début des activités date de 2011.
Oui.
Comment ça se fait que ce soit aussi facile d'implanter des projets comme celui-là encore aujourd'hui, alors qu'on connaît les impacts, alors qu'il y a des histoires similaires dans des communautés, je veux dire, beaucoup en Abitibi, mais ailleurs également, là, au Québec? Comment ça se fait que ce soit aussi facile?
Oui, bien, ça joue, je pense, à plusieurs niveaux. D'abord, localement, les gens espèrent avoir de l'emploi pour eux, pour leur famille, pour leurs amis. Faut dire que c'est des jobs qui sont bien payés quand même dans le milieu minier. Pour les municipalités, elles ont très peu de pouvoir. Donc, elles accueillent le projet favorablement parce que donc, la communauté va en bénéficier jusqu'à un certain point, mais elles ne peuvent pas exiger que les choses soient faites de telle ou telle façon, qu'on respecte les citoyens, qu'on minimise les inconvénients pour eux, etc. Parce que dans une ville de cette ampleur-là, ben, il y a quelques employés, mais ils n'ont pas les savoirs, les techniciens et les gens qui vont se battre contre la compagnie. Ils sont un peu esclaves de ces projets-là, okay? Jusqu'à un certain point, là.
Oui, puis c'est ce qu'on comprend au fil du film et aussi en lisant, par exemple, ton ouvrage, justement, Anne-Marie.
C'est le plan économique du Canada, hein, d'être le territoire le plus attrayant pour les ressources extractives. Donc, il y a aussi, Nicolas décrit bien l'espèce de sentiment d'impuissance qui peut y avoir dans des communautés. Mais il y a aussi derrière, quand même, et le film le montre aussi très bien, tout le soutien législatif, réglementaire, politique, qui permet aussi que ces projets-là se développe. Voilà, on pourra aller peut-être un peu plus dans les détails là-dessus, mais effectivement, je pense que le film donne un regard très, très percutant là-dessus aussi.
Et Nicolas, donc, tu t'es éventuellement tourné vers Anne-Marie Voisard dans le cadre de ton documentaire. Pourquoi l'avoir choisie, elle? Qu'est-ce qui t'a interpellé par rapport à son parcours?
Bien, j'avais suivi l'affaire Canada Noir. Puis, quand j'ai lu son livre, je me suis dit qu'elle avait vraiment les mots pour expliquer ce rapport de force-là. Parce que quand on est rendu que ces entreprises-là, ces compagnies, ont pas juste le pouvoir financier, mais font changer les lois, vont aller dans des menaces que si les lois ne sont pas adaptées à leurs besoins de faire des profits, ben on ferme la shop, on s'en va. On voit que les politiciens, les ministères, tout le monde plie. Et pour le citoyen, donc il n'a pas l'argent ni le temps de se défendre. Si en plus quand il réussit à le faire et à avoir, par exemple, dans ce cas-ci, à Malartic, une action collective qui est portée par des avocats qui en ont vu d'autres, mais qui, en bout de piste, même si le juge dit « OK, le droit est clair, on va porter la cause, puis on a des bonnes chances de gagner », et que la loi change parce qu'on permet à la compagnie de dépasser les normes, et juste à Malartic, là, pas à la grandeur du Québec. C'est comme on fait des
modèles qu'on voit partout.
Oui, on le voit à
Rouen. Ces changements de normes, on le voit à Rouen, à la pelletée depuis toujours. Ces menaces-là également, puis dans d'autres grandes entreprises du même type.
Oui.
Effectivement. Et donc, Anne-Marie, pour ta part, tu as fait une analyse sociologique approfondie dans l'affaire Noir Canada, on en parlait tout à l'heure, notamment pour aborder la violence sociale et juridique. Tu racontes l'histoire qui entoure les procès dans cet essai paru chez Éco-Société. C'est quoi les liens pour toi entre Malartic et le dossier Noir Canada ou ces pressions juridiques que tu as pu constater?
Ils sont nombreux. D'abord, l'histoire de Malartic, c'est d'abord une histoire d'impunité. On a une société minière qui s'est rendue coupable pendant plusieurs années d'infractions, au vu et au su de tout le monde, qui a fait valoir pour une divergence d'interprétation sur les lois pour continuer à faire perdurer cette espèce de flou. Et donc, il y a effectivement un premier recours juridique qui a été intenté par un citoyen là, qui a pris sur lui de se tourner vers les tribunaux et de dire « exiger finalement que l'autorité judiciaire puisse contraindre la minière ne serait-ce qu'à respecter le cadre réglementaire qui, normalement, à laquelle elle devrait être assujettie. Non seulement, donc, effectivement, il y a eu défaite de cette cause-là, mais ensuite, effectivement, le cadre réglementaire a été aménagé de manière complaisante. Donc, du jour au lendemain, on a permis à la minière de, finalement, on a légalisé ce qui hier était une infraction encore. Donc, on a là, effectivement, tout. On a une puissance économique qui non seulement se dérobe au droit, en fait, se trouve le moyen de finalement se soustraire à l'ordre juridique, mais en plus à faire modifier effectivement les lois à son avantage. Et on se demande quelle institution existe pour défendre l'intérêt public ou pour défendre une communauté. On a vu donc cette communauté effectivement se tourner à la fois vers les tribunaux, espérer du gouvernement une forme de... Et finalement être encore une fois abandonnée, tout simplement. simplement.
Ils trouvent recours nulle part, finalement, pour faire respecter leurs droits. Comment réagit la communauté à tout ça? Il doit y avoir... On peut imaginer qu'il y a une division dans la communauté de ceux qui veulent défendre ces droits-là, puis les autres qui disent non, mais c'est comme ça, puis nous, on veut notre emploi. Comment ça se passe? Comment ça se concrétise?
Ça, c'est un des impacts, je dirais, de sociaux qu'on peut pas réellement mesurer, mais quand on parle aux gens là-bas. Puis, bon, dans le film, on croise aussi Geneviève Brisson, qui est une sociologue qui a fait une étude terrain, qui a rencontré les gens, puis elle dit qu'il y a vraiment une fissure dans le tissu social, parce que même à l'intérieur de certaines familles, des fois, un est content, a un emploi, l'autre, sa maison a perdu de la valeur parce que c'est à côté de la mine, etc. Et les gens se parlent plus, ou en fait, finalement, on ne parle plus de la mine parce qu'on sait que ça va amener des conflits. C'est qu'on ne peut plus s'exprimer sur ce qu'on ressent par rapport. C'est un sujet qui est tu, et ça fait qu'il n'y a pas de débat sur les enjeux, sur les impacts comme tels. La mine, un projet comme ça vient monopoliser le discours et puis, jusqu'à un certain point, nous faire croire que, par exemple, si on change les lois, ben c'est pour le bien de tout le monde.
Oui, donc les gens se campent là-dedans, puis ça crée vraiment une division distincte, puis il y a une difficulté de maillage là, entre les gens à ce niveau-là.
D'ailleurs, on peut imaginer que c'est ce qui a motivé le comité de citoyens à finalement régler hors cours avec la minière. Après deux défaites judiciaires, à partir du moment où il n'y a plus de recours, vers quel sein on peut se tourner lorsque les institutions qui sont censées nous protéger ont failli à leur devoir. Donc, ça a laissé ce comité de citoyens en face à face avec la minière, réduit à devoir négocier eux-mêmes de part et d'autre. Donc, dans un vis-à-vis, ce qu'on appelle des règlements privés. Hein. On n'est plus dans une justice citoyenne, publique. On est dans des formes privées de règlements. Donc, les débats sont dépolitisés, sont soustraits au regard démocratique. Et on a assisté à... évidemment, il y a des compensations qui ont été octroyées, mais ça reste quand même absolument hallucinant là, comme finalité.
Ben oui, définitivement. Puis on comprend, de parce que vous dites présentement tous les deux, que les plaintes servent à rien aussi. Il y avait également une journaliste très pertinente dont j'oublie le nom présentement.
Annabelle Blais,
merci, de La Presse, qui était vraiment...
Journal de Montréal.
Je me trompe sur tous les plans. Bref, oui, c'est ça, donc, qui avait recueilli une panoplie d'informations par rapport à ça et qui indiquait finalement les plaintes ne servent à pas grand-chose, ne servent à rien. Au niveau juridique, les règles changent tout le temps aussi. Vous l'avez mentionné. Donc là, finalement, à ce point-ci, dans le processus, est-ce qu'il y a des avenues possibles encore? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un aboutissement éventuel à ça? Ou là, il faut se satisfaire de ce qui est là parce que ça ne pourra pas aller plus loin?
Bien, je pense que pour Malartic, le jeu est complet. Maintenant, on ne peut pas retourner en arrière. Mais avec le film, ce à quoi j'aspire, c'est qu'on remette ça dans le débat public, puis que d'autres projets, comme société, on se dise, bon, ben ce coup-ci, est-ce qu'on peut faire mieux les choses? On peut penser, donc, à Rouen, c'est quand même assez avancé avec le déménagement du quartier, aux frais du gouvernement, ce qui, moi, me dépasse complètement. Mais le film se termine à Murdochville. Oui. Là, c'est un nouveau projet. Enfin, on réactive une mine, un peu comme à Malartic. Mais la population, est-ce qu'elle va être aussi otage du projet ou est-ce qu'elle va pouvoir vraiment tirer un peu de bien de tout ce qui va se passer là-bas? Puis, ce qui change présentement, c'est que des projets comme ça, il peut y en avoir un peu partout. Ce ne sera peut-être pas cantonné à l'Abitibi ou à la Côte-Nord avec les mines de fer. Il y a des métaux maintenant, donc on va utiliser, entre autres, dans la transition énergétique et tout ça. Et la mine peut apparaître en Mauricie, elle peut apparaître en Estrie. Et il faut qu'on soit outillé comme ça, contre ça, enfin, ou contre les effets négatifs de ces projets-là. C'est pas de dire il faut plus qu'il y ait de projets miniers au Québec. Je pense qu'à quelque part, il y en a qui peuvent avoir lieu, mais comment est-ce qu'on fait pour que le pouvoir soit mieux distribué, pour que les gouvernements prennent leur rôle, pour que peut-être, bon, je suis peut-être un petit peu utopiste, là, mais que les dirigeants de ces entreprises-là ne pensent pas juste à satisfaire les actionnaires et fassent retomber un peu les bénéfices vers le bas.
Je partage cette utopie, mais j'ai des gros doutes, malheureusement. Justement, tu sais, le gouvernement indique aussi être finalement contraint par les minières. On peut penser à Rouyn-Noranda aussi, mais dans le cas de Malartic, c'est quand même nommé là, qu'ils sont contraints par la minière. Est-ce qu'on comprend qu'on ne pourra jamais avoir gain de cause à cause du rapport de force?
Anne-Marie, les États pourraient être souverains. Hein? C'est quand même un choix politique d'arrimer, en fait, de faire des enjeux économiques, l'espèce d'alpha et l'oméga de toutes les décisions qu'on prend en matière minière. Je veux dire, on a des cadres réglementaires. On peut penser au Connor Volt là, qui nous a occupés dans l'espace public. On a encore là aussi une forme de complaisance absolument grossière qui est faite aux entreprises. Je pense qu'il faut, sur la question du droit, il faut voir que le droit, c'est moins un ordre de contrainte pour les entreprises qu'un portefeuille de possibilités. Hein. Elles sont... le langage juridique, c'est le langage des entreprises. Oui. Et les stratégies juridiques, ça fait partie de leur arsenal. Donc, voilà, elles sont très habituées à soit contourner le droit, le manier à leur avantage, faire avancer la jurisprudence, faire du lobbying législatif. Elles ont comme un rapport beaucoup plus complexe, usuel et familier avec le droit. Il y a des connivences aussi entre les juristes, en tout cas certains juristes de très grands cabinets, les entreprises minières, mais aussi le pouvoir politique. On ne compte plus là, le nombre d'anciens premiers ministres qui, après leur retraite, ont passé de l'autre côté comme avocat pour les compagnies minières ou comme directement pour travailler pour l'industrie minière. Donc, on sent qu'il y a aussi là un enchevêtrement d'intérêts. Et puis, la voix des citoyens, j'entendais encore parler, je ne sais pas si Nicolas, on n'en a pas eu le temps d'en discuter, mais le projet Marban en Abitibi, qui serait une mine à ciel ouvert, six fosses en plein milieu, en plein cœur du territoire des caribous, qui sont une espèce menacée. Tous ces enjeux-là pèsent finalement très peu dès lors qu'il est question d'argent. Il y a d'ailleurs une citation du film d'une citoyenne qui le dit vraiment de manière très imagée. Donc, de dire que les gouvernements sont impuissants, c'est à moitié vrai. Hein. C'est donc, effectivement,
c'est un choix.
Il y a une forme d'impuissance choisie. Là.
Une impuissance choisie qui leur convient en quelque sorte.
Puis dans le peu de cours de droit que j'ai eu dans mon parcours scolaire, on m'a expliqué à un moment donné que le droit peut être vu comme une partie de soccer. Moi, j'adore le soccer. j'étais quand même assez charmé par l'idée où il y a les joueurs, donc il y a deux parties qui s'affrontent. Il y a les juges qui sont les arbitres, puis il y a nous qui sommes comme le public, tu sais, les spectateurs. Et sur le terrain, les joueurs, eux, justement, est-ce qu'on va faire une trébuchée, un tel? Jusqu'où on peut aller à déjouer ou à jouer un peu contre les règles? Et les juges, eux, ils écoutent la foule d'un côté puis ils regardent les règlements. Donc, c'est un jeu où on peut avoir quelque chose à dire comme population. Mm-hmm. Mais il faut se lever puis il faut...
Il faut s'armer de patience. Oui, oui, effectivement. Et justement, il y a la fille de Ginette dans le film, si je ne me trompe pas, la coiffeuse qui raconte ses souvenirs alors qu'elle était enfant et qu'elle entendait les conversations à l'époque sur ce grand projet à Malartic. Et elle dit une phrase qui m'a marquée. Le rapport social, le rapport entre les humains est conditionné par le prix de l'or. C'est comme si ce minerai-là conditionne comment on agit avec l'autre personne devant nous. Le prix de l'or a un impact sur le niveau de détresse ou de bien-être d'une population et c'est incroyable comment on peut l'observer dans une petite ville minière comme ici. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure là, de parler les clivages qui se créent à travers les opinions, les intérêts de chacun aussi. Ça se comprend. Ginette parle aussi de la pauvreté et de l'extrême richesse qui se côtoient pour être passé à Malartic en chemin vers Rouyn-Noranda et m'être arrêté devant cette mine à ciel ouvert, avoir visité un peu le quartier, c'est incroyable, cette dichotomie, cette déchirure sociale, comme vous le dites si bien, le constater.
Quand on est sur place, c'est difficile de comprendre comment est-ce que d'un côté, il y a des milliards et de l'autre, il y a des maisons qui, je dirais pas, sont abandonnées, mais sont laissées comme ça. À quelque part aussi, il y a différents facteurs. Puis, je pense qu'avoir vraiment réfléchi à comment ça allait se développer pour cette ville-là, on aurait pu prévenir les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que les travailleurs miniers, eux, ne se sont pas installés dans une ville où il y avait peu de services, où tout était un petit peu chambranlant. Ils se sont installés à Val-d'Or ou à Rouyn, dans les plus grosses villes. Et ceux qui habitent plus loin ont acheté des maisons ou louent des appartements à prix assez élevé, ce qui fait que la population locale se trouve, elle, à devoir partir et viennent travailler 10 jours et repartent. C'est pas nécessairement du fly-in, fly-out, mais c'est du roll-in, roll-out, oui, oui. Ou je sais pas trop, drive-in, drive-out. Mm-hmm. et donc, ça fait qu'il y a, plus de communautés fortes parce que ce sont des gens qui n'habitent pas réellement ce milieu-là. Mm-hmm. Et ceux qui sont restés, ben, se retrouvent donc un quartier en moins, des amis qui sont partis. Il n'y a pas de lieu de communauté non plus. Le petit café local a fermé, est devenu une des bâtisses que la mine a racheté. Mm-hmm. On voit, il y a comme un contrôle presque total du lieu. Là.
Oui.
C'est une des forces du médium cinématographique et du regard de Nicolas de nous montrer justement non seulement cette communauté, mais aussi cette mine à ciel ouvert qu'on avait. Vous me demandez si j'étais familière. Je l'avais vue en photo. Mm-hmm. Mais ces images, ces prises de vue, un travail de photographie qui est vraiment admirable. Absolument. C'est une mine à ciel ouvert, là, une des plus importantes du Canada, en plein centre-ville. Et je pense que ça vaut la peine de le voir sur grand écran. Vraiment. Vraiment pour voir ces images-là, pour prendre la mesure de ce que c'est une fosse de 3 km de long, de 400 mètres de profond, à côté d'une rue commerciale ou résidentielle. La montagne de déchets, les résidus miniers, des montagnes de 80 mètres de haut. C'est une chose de le lire, mais la force du film, entre autres choses, c'est aussi de le donner à voir et à ressentir. Donc voilà.
Absolument, oui. Pour l'avoir vu en première médiatique, j'ai été soufflé par les images et l'impact que ça a concrètement. Je pense qu'on va chercher quelque chose de plus profond encore que juste les mots, les faits à travers ça. Et Nicolas, quand on termine un documentaire comme celui-ci, qu'est-ce que ça laisse? Qu'est-ce que ça te laisse, toi, après ça?
Une certaine colère. Je ne suis pas quelqu'un de très colérique ou extraverti dans la vie, mais c'est sûr que ça me met un peu en crise de voir ça. J'aurais aimé ne pas faire de film, que ça se passe très bien, d'avoir fait La Règle d'or, puis après de me rendre compte que finalement, oui, tout le monde est content, puis ça va bien. Mais à quelque part aussi, ça donne l'envie d'en parler, de sensibiliser les gens, puis de voter du bon bord, à quelque part aussi.
Oui. Et pour toi, Anne-Marie, d'avoir été si près de ce projet-là, de l'avoir connu davantage?
Bien, je ne serais pas beaucoup plus enthousiaste. Je peux juste répéter que ça nous laisse, encore une fois, avec cette impression désemparée. Et si seulement, encore une fois, c'était un cas isolé ou une espèce de marge d'erreur catastrophique, comme il peut en survenir, alors que là, on a l'impression que non, c'est l'histoire se réécrit, se répète. Il y a déjà des projets d'annoncer, y compris des projets avec Osisko comme, par exemple, actionnaire majoritaire, avec les mêmes noms, avec les mêmes procédés, les mêmes formes. Non, ça nous laisse vraiment avec cette impression désemparée que, pour l'instant, les institutions qui sont chargées de nous protéger, de protéger l'environnement, se dérobent à leurs responsabilités. Et donc, effectivement, ça va demander encore beaucoup de travail politique. Il y a la question, effectivement, des représentants, mais je pense qu'il y a aussi un travail et Nicolas en fait partie, de la part des citoyens, là, il y a de la mobilisation à faire. Il y en a beaucoup qui se fait, mais on a encore du pain sur la planche.
Oui, absolument. Et ton plus grand souhait avec Malartic, Nicolas?
Le film se termine, par exemple, à Murdochville, une situation qui est semblable à celle de Malartic, où on va repartir une mine qui est fermée depuis bientôt 30 ans. J'espère que là-bas... les autorités locales, les citoyens vont être capables de s'en tirer mieux que ce qui s'est passé à Malartic.
On le souhaite ardemment, je dois le dire. Alors, un film à voir absolument. Il y a une belle tournée qui est prévue au Québec. Combien de salles on a de prévues jusqu'à présent?
Là, on sort dans 8 salles, autant en Abitibi, donc Québec, Montréal, Shawinigan, la Gaspésie, le bas du fleuve.
Excellent. Donc, une programmation à surveiller et à voir absolument. Un grand merci à tous les deux, Nicolas Paquette et Anne-Marie Voisard, de vous être prêtés au jeu avec moi aujourd'hui.
Merci à toi.
Une prochaine, donc, on parle de slow working avec le mouvement Santé mentale Québec, les 100 ans de l'artiste et militant Frédéric Bach avec Mère au front, entrevue avec Geneviève Bélan et Henri Jacob suite à la sortie du livre La dernière, si on la perd, aux éditions du Quartz. Merci Maurice Bolduc pour la mise en onde. Merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes en rediffusion et bonne journée à vous.
Cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache ta toune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache ta toune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
CIBL, au cœur de la culture.